Mes frères bien-aimés, quand les apôtres ont entendu cette parole du Christ, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Ils ont dû alors penser, et peut-être même dire, mais alors, pourquoi tu veux partir? Reste avec nous. Si tu restes, on te le promet, on te fait ton ménage, ta cuisine, tes lessives. Bien évidemment, le Christ n'a pas accepté la proposition. Tout simplement parce qu'il sait faire lui-même et avec joie son ménage, sa cuisine et ses lessives. Mais plus profondément parce qu'il veut que le Saint-Esprit vienne en nos cœurs et nous permette ainsi de participer à la vie de la Trinité. Mais pour cela, pour que le Saint-Esprit descende sur la terre, il faut que lui, le Christ, monte au ciel. Son départ n'est donc pas une perspective désolante. Et il peut alors rassurer ses apôtres en leur disant « La tristesse remplit votre cœur parce que je vous parle de mon départ. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas en vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière, ce qui n'est pas possible tant que je demeure parmi vous. » Ah, mes frères, nous devons donc être contents que le Christ soit monté au ciel, même si nous sommes bien évidemment déçus de ne plus pouvoir contempler son beau visage sur terre. Oui, nous sommes contents, car son ascension a permis la Pentecôte, et depuis lors, le Saint-Esprit fait vivre en nous la Sainte Trinité et nous permet d'avancer vers la vérité tout entière que nous recherchons tous. Cela étant dit, ce qu'il faut remarquer, c'est que le Christ n'a donc pas pu tout nous dire durant sa vie terrestre, et que toute la vérité n'est donc pas écrite dans les évangiles, ni même dans le Nouveau Testament, ni même dans toute la Bible. D'ailleurs, si c'était le cas, si tout était déjà écrit, à quoi servirait le Saint-Esprit ? En fait, la vérité vient à nous à travers deux canaux différents. À travers le Christ, dont la parole a été transcrite dans la Bible, mais aussi à travers le Saint-Esprit, dont la parole est certifiée par l'Église. Nous avons bien une seule vérité, une seule parole de Dieu notre Père, mais nous avons deux canaux, les écrits de la Bible et le magistère de l'Église. Les protestants qui ne prennent en compte que les saintes Écritures, sola scriptura comme ils disent, se trompent donc royalement, puisque l'Écriture elle-même affirme qu'elle ne contient pas toute la vérité. Et de leur côté, les catholiques et les orthodoxes ont raison de croire que la vérité se recueille à la fois dans les livres de la Bible et dans les dogmes de l'Église. Pour autant, mes frères, après avoir fustigé les protestants, il convient que je nous fustige également, nous les catholiques, car il nous arrive très souvent d'avoir l'esprit des protestants, de croire que Dieu a déjà tout dit dans le passé et qu'il n'a rien de nouveau à nous dire pour aujourd'hui. Et alors, nous estimons que le pape n'a pas le droit de changer quoi que ce soit en matière de morale. Les homosexuels, les divorcés remariés, qu'il n'y touche pas. Et quoi ? Après l'ascension, le Saint-Esprit n'aurait soufflé que quelques années, le temps que les apôtres meurent, et depuis, il aurait disparu des écrans radars ? Mais où sommes-nous ? Alors certes, Dieu ne peut jamais se contredire. Donc il n'y a pas de contradiction entre ce que le Saint-Esprit dit aujourd'hui et ce qu'il a dit dans le passé. Mais s'il n'y a pas de contradiction, il peut tout de même y avoir des accomplissements, ce qui peut impliquer de grands changements. Je rappelle que pour le Christ, le passage de la religion juive à la religion catholique n'est pas une contradiction, mais un accomplissement. Et pourtant, il y en a des différences entre juifs et catholiques. Aussi, encore aujourd'hui, le Saint-Esprit souffle fort pour accomplir notre foi et notre morale, et cet accomplissement peut engendrer de sacrées évolutions. D'ailleurs, il y en a déjà eu et il y en aura encore. Pour ne prendre qu'un exemple, dans les années 60, on refusait la sépulture aux suicidés, pensant qu'ils avaient forcément commis un péché mortel en s'ôtant la vie. Mais aujourd'hui, on a compris que c'était plus complexe que cela et nous leur célébrons des funérailles comme il se doit. Est-ce contradictoire avec le passé ? Non. C'est juste un approfondissement qui a été rendu possible grâce aux avancées de la connaissance humaine, mais aussi grâce à l'intelligence divine que nous octroie le Saint-Esprit. Aussi, mes frères, nous devons être ouverts à des modifications dans notre compréhension de la parole de Dieu. Bien sûr, nous ne tombons pas dans un relativisme total, acceptant tout et n'importe quoi, mettant notre raison de côté et devenant alors tout simplement bête. Mais il convient de se dire qu'en toute époque, le Saint-Esprit souffle, en particulier à travers le Saint-Père, mais aussi à travers chacun de nous, pour faire avancer le paquebot de l'Église sur les flots de la vérité. Ceux qui demandent parfois de quitter certains ports d'attache que nous aimions, mais qui nous empêchent d'aller plus loin dans la contemplation de la révélation. Par exemple, mes frères, nous avons admiré le pape Jean-Paul II de tout notre cœur, lui qui avait une aura si impressionnante. Nous avons vénéré le pape Benoît XVI de toute notre âme, lui qui avait une humilité si désarmante. Mais ne restons pas amarrés à ces deux colonnes et attachons-nous à celle que nous propose le Saint-Esprit, le pape François, même s'il ne nous plaît pas sur certains aspects. Si c'est votre cas, soyez rassurés, c'est également le mien. Il paraît qu'il n'est pas fan des prêtres en soutane. Voyez, je suis mal barré. Il suffit également de regarder une de ses messes pour se rendre compte que sa sensibilité liturgique n'est pas la mienne. Et cerise sur le gâteau, au foot, il est pour l'Argentine alors que moi, je suis pour l'Allemagne. Voyez, j'avais toutes les raisons d'aimer Benoît XVI et j'ai toutes les raisons de ne pas aimer le pape François. Mais je me dis que ce sont les goûts du Saint-Esprit qu'il faut suivre et non les miens. Donc je ferme mon clapet et j'écoute le pape. Attention mes frères, nous avons souvent tendance à avoir un pape, un évêque ou un curé de retard. Quand ils sont là, on leur trouve tous les défauts du monde et quand ils sont partis, on se dit finalement, ils n'étaient pas si mal que ça. Quel dommage! On rate alors une fois de plus le bon wagon à cause de notre entêtement. Eh bien, pour éviter cela et pour être à l'heure du ciel, une seule solution. Vivre du Saint-Esprit en l'invoquant régulièrement au cours de nos journées. Il viendra alors en nous, il renouvellera nos idées et il donnera ainsi à nos actes sa fraîcheur et sa fécondité. Ah, mes frères, il n'y a pas à dire. Quand le Saint-Esprit n'est plus de la partie, les idées sentent la naphtaline et les actes sont stériles. Vous voulez des exemples de personnes dont l'action était infertile à cause d'une compréhension rance de la vérité et dont l'action est devenue fertile en un instant grâce à un approfondissement de la vérité par le Saint-Esprit? Eh bien, je vais vous en donner, mais un seul, car il est éloquent. Il s'agit des apôtres. Lorsqu'ils commencent à suivre Jésus, ils voient en lui le Messie, qui rétablira le royaume d'Israël sur l'échiquier politique du Moyen-Orient. La mort du Christ est donc pour eux la grande désillusion. Mais après un moment de désarroi, ils se reprennent. Certes, le royaume ne s'établira pas aussi facilement qu'ils l'avaient cru, ni par une voie triomphale, mais il viendra. Ils ne se découragent donc pas. Et au moment de l'ascension, ils demandent à leur maître, « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas établir le royaume d'Israël ?» Jésus leur fait une réponse évasive, « Il ne vous appartient pas de connaître le temps que mon Père a fixé. » Les perspectives s'éloignent encore. Mais une fois encore, ils ne désespèrent pas et ils se réunissent au Cénacle. Là, ils reçoivent le Saint-Esprit. Et enfin, enfin, ils comprennent que ce n'est pas d'un royaume terrestre qu'il s'agit, mais d'un royaume céleste. Ils se mettent alors à la tâche, et tandis que pendant 50 jours de la résurrection à la Pentecôte, ils n'ont pas fait une conversion, en une journée, ils en font 3000. Voyez, grâce au Saint-Esprit, leur compréhension de l'Église a changé. Ils ne la voient plus comme un empire terrestre pour les Juifs, mais comme une communauté universelle, au-dessus de toute différence de race ou de nation. Et alors, leur action se déploie sans précédent. Mais pour en arriver là, les apôtres ont été éclairés progressivement. Eh bien, mes frères, soyons comme les apôtres, pour sauver les âmes, pour arracher les âmes aux démons. Acceptons l'action du Saint-Esprit qui veut purifier nos vues, nos principes, nos usages. Certes, si nous nous laissons faire, mes frères, le Saint-Esprit va nous emmener au large. Il va nous sortir de nos sécurités et ce ne sera pas toujours agréable. Mais alors, je vous en supplie, Même si tout n'est plus sous notre contrôle et que nous connaissons quelques sueurs froides, ne rebroussons pas chemin. Ne tuons pas l'action que l'Esprit veut accomplir à travers nous pour notre époque. Nos contemporains ont besoin d'entendre la parole de Dieu par le biais d'une intelligibilité et sous des formes d'expression qui n'existaient pas par le passé, car elles n'auraient pas été adaptées. Oui, à chaque époque, le Saint-Esprit nuance et accentue la parole divine selon les besoins de chacun de ceux qui l'entendent. N'ayons donc pas peur de la nouveauté, puisque c'est dans la nature du Saint-Esprit de créer sans cesse du neuf. Amen.